Voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric et bonjour à tous. Dans l'actualité de ce samedi, cette nouvelle fusillade aux États-Unis, dans une station balnéaire de la côte Est, un employé municipal a ouvert le feu faisant 12 morts avant d'être abattu par la police. Le verdict dans l'assassinat de Sophie Toscan du Plantier, le principal suspect réfugié en Irlande, Yann Bella a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris. Côté politique, rien ne va plus au sein du Parti des Républicains depuis les européennes. Un nouvel élu, le maire de Quimper, annonce son départ. Une dizaine d'autres pourraient en faire autant la semaine prochaine. Surtension chez EDF où les tarifs réglementés de l'électricité enregistrent aujourd'hui une hausse de près de 6%. Rendez-vous à la fin de ce journal pour une nouvelle interview dans le cadre du Livre Inter. Ce matin, Elisabeth Filleul pour Doggerland. À 8h10, le journal des sports présenté par Laetitia Bernard et au sommaire du football féminin avec la victoire de la France sur la Chine hier soir et bien sûr du tennis à Roland-Garros. Et puis à 8h20, Eric Delvaux, vous recevez Dominique Voynet.
Oui, une ex-ministre de l'Environnement, cofondatrice des Verts depuis le bon score des écologistes aux européennes. Quel avenir pour l'écologie politique? On en parle effectivement à partir de 8h20.
France Inter. Les États-Unis, nouvelle fois endeuillés par une fusillade, la 150e depuis le début de l'année, ayant fait plus de 4 victimes. Une fusillade qui a eu pour cadre un bâtiment municipal de la station balnéaire de Virginia Beach, sur la côte Est, à 300 km au sud de Washington, et qui a donc causé la mort de 12 personnes, ainsi que celle du tireur abattu par la police. Le récit de ce drame avec notre correspondant Grégory Phillips.
Peu après 16h, hier après-midi, la police de Virginia Beach reçoit ses appels au secours. Un homme armé vient de pénétrer à l'intérieur d'un bâtiment municipal et a ouvert le feu indistinctement. Il y a de nombreuses victimes. On a entendu qu'il y avait un tireur, raconte cette témoin, Megan Benton. On s'est barricadé dans nos bureaux pour être en sécurité. On a appelé les secours et on leur a demandé de venir ici le plus vite possible. L'homme qui a ouvert le feu est un employé municipal, mais le chef de la police locale ne donne pas plus de précisions. À cette heure-ci, il y a plus de questions que de réponses, indique le shérif, qui précise que l'individu a été abattu par les policiers. Le maire de cette station balnéaire de 450 000 habitants est effondré. C'est le jour le plus terrible de l'histoire de Virginia Beach, dit Bobby Dyer. Les victimes sont nos amis, des voisins, des collègues. Cet état de Virginie avait déjà été traumatisé en 2007 par la tuerie de Virginia Tech. Un étudiant avait abattu 32 personnes sur le campus de l'université. 12 ans plus tard, la population de Virginie est de nouveau endeuillée alors que la législation sur les armes à feu n'a quasiment pas évolué au niveau fédéral. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Pas de commentaire pour le moment sur cette fusillade de la part de la Maison Blanche. Le président américain Donald Trump s'est contenté d'annoncer hier qu'il lancerait officiellement sa campagne en vue d'un second mandat le 18 juin prochain.
En France, c'est aujourd'hui, samedi 1er juin, qu'entre en vigueur une nouvelle augmentation du tarif réglementé de l'électricité.
Oui, on peut même parler d'une hausse historique pouvant s'élever jusqu'à 5,9%, comme l'avait préconisé la Commission de régulation de l'énergie en février dernier. Au total, ce sont 25 millions d'abonnés au tarif bleu d'EDF qui sont concernés. Alors, pour faire face à cette envolée des prix, les consommateurs concernés peuvent toujours tenter de faire jouer la concurrence auprès d'un autre fournisseur d'énergie. Pour les y aider, des start-up rivalisent d'imagination, proposant notamment des comparateurs de prix. L'une d'entre elles, basée à Aix-en-Provence, offre même la possibilité de pouvoir changer d'opérateur en une minute seulement, juste en envoyant la photo de sa facture. Les précisions de notre correspondant dans la région, Olivier Matruc.
Sébastien est comme 80% des Français.
Je suis au prélèvement à la confiance, EDF. Donc du coup, je ne sais pas exactement ce que ça représente par mois. Si d'un clic je pouvais changer, comme sur un opérateur téléphonique, j'irais faire mon choix.
Pour le téléphone ou la banque, l'habitude est prise de faire jouer la concurrence, mais pas pour l'électricité, parce que ça paraît compliqué. Une start-up aixoise est en train de bouleverser cette donne.
Ça prend 30 secondes simplement en télécharge où on prend photo de sa facture d'électricité et tout le formulaire se pré-remplit automatiquement et après vous n'avez plus qu'à souscrire à l'offre la plus intéressante pour vous.
Gersande de Sabran, présidente de Hope Energy, le premier comparateur d'électricité sans formulaire.
Il y a une trentaine de fournisseurs actuellement. EDF perd près de 100 000 clients par an. Et il faut dire que les fournisseurs d'électricité font beaucoup de publicité en ce moment, que ce soit Total, Direct Energy, qui ont quand même des moyens aussi de communiquer, mais aussi des plus petits fournisseurs qui essaient de se démarquer. Mais il faut savoir que 80% des Français sont toujours clients d'EDF.
Avantage du système, on peut renouveler l'opération et changer de fournisseur si l'on veut chaque mois. La start-up est payée par les opérateurs sur les contrats nouveaux. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, sachez que les tarifs réglementés d'EDF pourraient de nouveau augmenter cet été d'environ 1%, cette fois-ci au 1er août, en raison des coûts liés à l'acheminement de l'électricité.
Rien ne va plus au parti Les Républicains, où une dizaine de députés pourraient annoncer leur départ dès le début de la semaine prochaine.
Depuis la déconvenue de la liste Les Républicains menée pour les européennes par François-Xavier Bellamy, arrivé en quatrième position avec seulement 8,5% des voix, il ne se passe pratiquement plus un jour sans qu'un élu ne critique la ligne de son parti ou bien menace tout simplement de le quitter. Dernière en date, hier, c'est le maire de Quimper, Ludovic Jolivet, qui a annoncé qu'il quittait Les Républicains pour rejoindre la formation de centre-droit Agir, proche de La République En Marche. Et rien, Maxence Lambrecq, même pas les engagements de Laurent Wauquiez proposant de revoir la stratégie de son parti, ne semble pouvoir arrêter l'hémorragie.
Chaque jour qui passe amène son lot de démissions et d'attaques. Laurent Wauquiez accuse le coup, selon ses proches. Il n'est pas prêt à quitter le navire, assure l'un d'entre eux, mais voit bien qu'il est en train de se vider. Hier soir, le maire de Quimper a claqué la porte. Ce parti ne possède désormais ni boussole, ni colonne vertébrale, a lancé Ludovic Jolivet. Chez lui, LR est tombé à 6%. Il rejoint donc Agir et la majorité. À Paris, c'est presque la même histoire. Plusieurs maires LR d'arrondissement poussent maintenant une candidature d'ouverture type Jean-Louis Borloo. Alors que dans certaines régions, c'est le RN qui fait les yeux doux aux élus de droite. À l'Assemblée, la semaine prochaine s'annonce aussi agitée. Une dizaine de députés Macron compatibles pourraient quitter le groupe LR, pendant que le président du Sénat essaiera lui d'enjamber les états généraux de Laurent Wauquiez en montant mardi une plateforme de la droite et du centre avec notamment les présidents des associations d'élus locaux. Arrêtons de nous tirer dessus nous-mêmes, j'appelle au cessez-le-feu, réagit Guillaume Larrivé. Le député craint une nouvelle guerre des chefs, mais cela ressemble pour l'instant davantage à une hémorragie qui rappelle celle de la présidentielle.
Nouveau samedi de mobilisation pour les Gilets jaunes, leur 29e samedi consécutif, alors que la participation à ce mouvement ne cesse de diminuer depuis maintenant plusieurs semaines.
22 ans après l'assassinat de Sophie Toscan-Duplantier dans le sud de l'Irlande, la cour d'assises de Paris a rendu hier son verdict.
Et oui, 25 ans de réclusion criminelle à l'encontre du journaliste britannique Ian Bailey. Tel est le verdict prononcé hier par la cour d'assises, un verdict symbolique puisque le principal suspect de ce crime n'avait pas fait le déplacement préféré. Resté en Irlande jusqu'ici, qui refuse son extradition. Toutefois, ce verdict à la sortie d'un nouveau mandat d'arrêt pourrait peut-être faire bouger les choses. Du moins, les avocats de la famille de Sophie Toscan-Duplantier l'espèrent. Jean-Philippe Degnaud.
Ce mandat d'arrêt va obliger la justice irlandaise à se poser une nouvelle fois la question de transférer à la France un homme qu'elle avait à deux reprises refusé de remettre au cours de l'instruction pour qu'il soit jugé à Paris. Seulement cette fois, c'est différent. La France ne fournit pas à Dublin un ensemble de charges qui pèsent contre lui. Elle fournit une condamnation longuement motivée. Les avocats de la famille de Sophie Toscan-Duplantier lancent un appel à l'Irlande, maître Marie Dauzé.
Je ne veux pas qu'on puisse considérer qu'il s'agit là d'un procès au rabais. Même si tous les témoins ne sont pas venus, deux témoins irlandais sont venus. Les policiers ont déposé de façon remarquable et précise sur toutes les investigations menées en Irlande. Donc bien sûr que nous lançons un appel à l'Irlande, mais nous savons désormais que justice a été faite, a été rendue et que Ian Bailey est coupable.
Et si Dublin refuse de remettre Ian Bailey à la France, cette condamnation restera symbolique tant que le meurtrier de Sophie Toscan-Duplantier ne quitte pas l'Irlande.
L'auteur présumé de l'attentat de Lyon a été mis en examen hier soir et placé en détention. Cet étudiant algérien en informatique a fini par avouer avoir fabriqué le colis piégé dans l'explosion, a fait 14 blessés. Le livre Inter, pour refermer ce journal, comme tous les jours à cette heure-ci, nous vous faisons entendre l'un ou l'une des auteurs retenus pour cette compétition littéraire. Place aujourd'hui à Elisabeth Filleul pour son livre Doggerland, édité chez POL, du nom d'un territoire aujourd'hui submergé. Elisabeth Filleul, au micro d'Eva Bétan.
C'est parti d'un mot, Doggerland, qui est aussi un lieu, sauf que le territoire est englouti depuis 8000 ans, au milieu de la mer du Nord. Et quand il a été submergé, c'était une île qui était encore de la taille de la Sardaigne. À partir de ça, naît une fascination et des questions qui se posent. La première étant que j'avais jamais entendu parler de ce territoire. Alors que ça se télescope avec plein de mythes connus sur la montée des eaux, sur les raz de marée, type Atlantide, même le déluge. Enfin, mais le Doggerland, bizarrement, et c'est pas si vieux, hein, rayait des mémoires. Ça m'a attiré d'essayer de m'en construire une représentation. Et à un moment donné, ça s'est cristallisé quand j'ai eu les deux personnages principaux. Qui se sont aimés, qui se sont perdus de vue et qui vont se retrouver face à face 20 ans plus tard. Et est-ce que la rencontre a lieu ou pas ? C'est ça l'idée. qu'est-ce qui va l'emporter de ce qui les séparait ou de ce qui les rapprochait. Et aussi, puisque le livre, c'est sur 48 heures, dans cette urgence de la tempête qui balait la mer du Nord à ce moment-là.
Elisabeth Hillet, la retrouvée plus longuement dans notre journal de 13h ou bien alors sur notre site internet franceinter.fr. Et pour connaître le nom de la lauréate ou du lauréat du livre Inter, rendez-vous sur notre antenne le lundi 10 juin. C'est la fin de ce journal. Je vous laisse en votre compagnie, Eric Delvaux.
Absolument.
Prêt à partir.
Prêt à partir. C'était le journal de Serge Martin. On accueille Laetitia Bernard. Bonjour Laetitia.
Bonjour.